VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 12 février 2021. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. Un conseiller russe du président centrafricain Faustin Archange Touadéra appelle les rebelles à livrer leur chef. La Cour pénale internationale se choisit un nouveau procureur qui doit remplacer Fatou Bensouda, dont le mandat expire en juin. Ici aux États-Unis, les avocats de l'ex-président Donald Trump prennent la parole ce vendredi dans son procès au Sénat pour incitation à l'insurrection. Londres, Paris et Berlin accusent l'Iran de compromettre son retour dans l'accord sur le nucléaire avec ses multiples violations. Également dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. En RDC, les avocats des partis civils dans l'assassinat en 2010 du militant des droits de l'homme Floribert Chebeya ont annoncé ce vendredi avoir déposé une plainte au parquet militaire contre un général congolais. En début de semaine, deux policiers en exil ont affirmé dans des témoignages à une radio française avoir participé à l'assassinat de Floribert Chebeya, dont le corps a été retrouvé le 2 juin 2010 dans sa voiture à la périphérie de Kinshasa et à la disparition du corps de son chauffeur fidèle Bazana. Tout en accusant le général Numbi d'avoir commandité l'assassinat, les deux ex-policiers ont aussi indiqué le lieu où seraient enfouis les restes de fidèle Bazana. En Centrafrique, alors que l'offensive de l'armée contre les rebelles de la CPC se poursuit, le conseil russe du président Touadéra a indiqué dans un communiqué que certains groupes armés ne font plus partie du processus politique. Valérie Zakharov a lancé un appel aux combattants d'arrêter leurs dirigeants et de les remettre aux forces de l'ordre. À Bangui pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
Cette sortie médiatique de Valérie Zakharov à travers un communiqué est une première depuis la reprise des hostilités mi-décembre 2020 en Centrafrique. Croyant profiter du temps de paix et des bonnes intentions du gouvernement, les criminels et militants d'opposition ont montré leur vraie couleur et ont décidé de jeter bas l'accord de paix, a écrit le conseiller russe du président Touadéra en matière de sécurité. Monsieur Zakharov de poursuivre, certains groupes armés ont franchi la ligne rouge, ils ne peuvent plus faire partie du processus politique. Dans un proche avenir, le gouvernement contrôlera tout le territoire de la République centrafricaine et la paix reviendra dans les régions, a assuré le conseiller du président centrafricain. Avant de conclure, je lance un appel aux membres des groupes armés. La seule issue pour vous est de menotter vos dirigeants et de les remettre aux forces de l'ordre. Cet appel de Valérie Zakharov intervient au moment où l'armée centrafricaine et ses alliés russes et rwandais prennent le contrôle de plusieurs villes et localités contrôlées par les rebelles de la CPC. Dans la capitale centrafricaine, plusieurs marches ont eu lieu ce vendredi pour soutenir le gouvernement dans sa campagne contre les rebelles et pour dire non au dialogue avec les groupes armés. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Un des 28 casques bleus togolais blessé mercredi dans une attaque contre leur camp dans le centre du Mali a succombé à ses blessures, a indiqué vendredi la mission de l'ONU. Ce décès porte à 6 le nombre de casques bleus tués depuis le début de l'année en servant la mission de paix la plus meurtrière de l'ONU dans le monde. 5 avaient été tués en janvier par des engins explosifs improvisés, une des armes de prédilection des djihadistes au Mali. Au Burkina Faso, une épidémie d'hépatite E affecte plus de 700 personnes à Borsolago, selon un médecin sans frontières. Cette petite ville du Nord accueille des déplacés fuyant les violences djihadistes et intercommunautaires. L'insuffisance de points d'eau et la forte concentration des populations au niveau des puits et points d'eau, souvent insalubres, ainsi que le manque d'infrastructures d'assainissement et d'hygiène, sont à l'origine d'infections parasitaires et de maladies hydriques comme l'hépatite E à Borsologo, indique un communiqué de l'ONG. Les pays membres de la Cour pénale internationale doivent élire ce vendredi un nouveau procureur général, une lourde tâche dont la titulaire actuelle fait l'objet de sanctions américaines. Le point avec John Lyndon.
Quatre candidats du Royaume-Uni, d'Irlande, d'Italie et d'Espagne veulent succéder à la procureure générale sortante Fatou Bensouda. Selon plusieurs médias, le Britannique Karim Khan serait favori pour obtenir le poste. Avocat et spécialiste des droits de l'homme, Karim Khan a récemment dirigé une enquête de l'ONU sur les crimes du groupe État islamique et appelé à des procès semblables à ceux des dirigeants nazis à Nuremberg. Également en lice, l'Espagnol Carlos Castrezagna, l'Irlandais Fergal Guenor et l'Italien Francesco Lovoi. Malgré plusieurs tentatives au cours des dernières semaines, les États membres de la CPI ne sont pas parvenus à un consensus pour cette nomination et doivent désormais trancher lors d'un vote au siège des Nations Unies à New York. Celui qui doit devenir le troisième procureur de la Cour depuis sa création en 2002 va hériter de dossiers volumineux et d'affaires complexes dans un tribunal dont la légitimité est en permanence remise en cause.
En Afrique du Sud, une quinzaine de membres de l'ANC, le parti au pouvoir, ont été arrêtés vendredi dans une affaire de corruption et de blanchiment de fonds au moment des funérailles de l'ancien président Nelson Mandela en 2013. Ils ont été libérés sous caution et comparaîtront le 5 mars. Ces personnes sont mises en cause dans le cadre de déclarations frauduleuses de frais de transport et de logement de personnes souhaitant assister à une cérémonie d'hommage au défunt président Nelson Mandela dans la ville côtière d'East London.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Procès au Sénat de Donald Trump, c'est au tour de la défense de prendre la parole ce vendredi. Les avocats de l'ex-président américain, accusé d'incitation à l'insurrection dans l'assaut du Capitole, espèrent un acquittement. Nathalie Barche.
Ce vendredi, les avocats du 45e président des États-Unis tentent de démonter l'argumentaire des procureurs démocrates qui, pendant 2 jours, sont revenus sur l'attaque du 6 janvier avec des vidéos inédites de l'assaut du Capitole qui a fait 5 morts. Ce procès n'aurait jamais dû arriver et s'il devait se produire, il devrait être aussi court que possible compte tenu de l'absence totale de preuves, a affirmé jeudi sur Fox News l'un des avocats de Donald Trump, David Schoen, promettant un exposé de moins de 4 heures devant les sénateurs. La défense rejette la responsabilité de Monsieur Trump dans l'assaut donné par ses partisans après son discours et estime que la procédure en destitution n'est pas conforme à la Constitution car il n'est plus président. Son successeur, Joe Biden, s'est dit impatient de voir ce que les républicains feraient lors du vote qui pourrait intervenir ce week-end, espérant qu'ils prendraient leurs responsabilités.
Les violations répétées de l'accord sur le nucléaire par Téhéran compromettent le retour de la diplomatie dans ce dossier. C'est ce qu'indique ce vendredi Londres, Paris et Berlin. Le point avec Bagasikura.
Les porte-paroles des 3 ministères des Affaires étrangères, dans un communiqué commun, affirment qu'en accélérant ces violations, l'Iran compromet la possibilité qu'un retour à la diplomatie permette la réalisation pleine et entière des objectifs du plan d'action global commun. En vertu de cet accord, l'Iran s'est engagé à ne pas produire d'uranium métallique pour une durée de 15 ans, ont rappelé les 3 pays co-signataires de l'accord de 2015 avec la Russie et la Chine et les États-Unis qui en sont sortis en 2018. L'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé mercredi avoir procédé le 8 février à la vérification de 3,6 grammes d'uranium métal dans l'usine d'Ispahan. L'Iran avait fait savoir à la mi-janvier qu'il allait dans cette direction. L'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche a laissé espérer une reprise du dialogue, mais le nouveau président américain a prévenu qu'il ne ferait pas le premier pas. Les Iraniens réclament à l'inverse un retour des États-Unis dans l'accord avant de revenir au respect de leurs engagements.
Les conséquences humanitaires de la guerre au Yémen, selon des agences onusiennes, la moitié des enfants de moins de 5 ans vont souffrir de malnutrition en 2021 dans ce pays dévasté et des centaines de milliers d'entre eux pourraient en mourir faute d'assistance humanitaire suffisante. L'ONU et les organisations humanitaires déplorent régulièrement le sous-financement de l'aide internationale au Yémen, en particulier en pleine pandémie de COVID-19. En 2020, le plan d'intervention humanitaire humanitaire pour ce pays n'a reçu que 1,9 milliard de dollars sur les 3,4 milliards nécessaires, ont fait remarquer les agences onusiennes. La mobilisation contre le coup d'État n'a pas faibli ce vendredi en Birmanie, avec des centaines de milliers de manifestants dans les rues encore ce vendredi, malgré les nombreuses arrestations ordonnées par la junte. Depuis le putsch du 1er février, plus de 350 responsables politiques, représentants de l'État, militants et membres de la société civile, y compris des journalistes, des moines et des étudiants, ont été placés en détention, a relevé l'ONU lors d'une session extraordinaire de son Conseil des droits de l'homme. Les Nations Unies jugent inacceptable l'usage de la violence contre les manifestants. Le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Tokyo a présenté ce vendredi sa démission après le tollé provoqué par ses propos sexistes la semaine dernière. Mes déclarations inappropriées ont causé beaucoup de troubles. Je souhaite démissionner de la présidence dès aujourd'hui, a déclaré Yoshiro Mori, 83 ans, lors d'une réunion du conseil exécutif de Tokyo 2020. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par John Lindon.
En République démocratique du Congo, Equity Bank commerciale du Congo a lancé ses activités jeudi avec un bilan de 2,7 milliards de dollars et une capacité financière de prêter jusqu'à 40 millions de dollars à un seul client, d'après ses responsables. La nouvelle entité est le fruit de la fusion entre Equity Bank Congo et la Banque commerciale du Congo. Au Cameroun, l'État recherche 350 milliards de francs CFA pour financer une partie de son budget 2021, évalué à un peu plus de 4 865 milliards de francs CFA. En plus de l'émission des titres publics, l'État entend recourir au tirage pré-projet à travers des financements bancaires et les appuis budgétaires pour un montant de 1134,9 milliards de francs CFA. Les fonds recherchés devraient permettre de réduire une partie du déficit budgétaire qui est évalué à 1484 milliards de francs CFA. Kenya Airways entend diversifier ses activités en se lançant aussi sur le transport des vaccins anti-Covid. La compagnie espère s'imposer comme un transporteur incontournable pour l'Afrique en s'appuyant sur son savoir-faire dans le transport de roses fraîches vers l'Europe. La compagnie kenyane veut même ouvrir un entrepôt de stockage dédié aux vaccins.
Présent la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Début des matchs du pool de la Ligue africaine des champions ce soir. Dans le groupe A, l'AS Vita Club de la RDC joue le SC Simba de la Tanzanie. Pour le compte de cette première journée, dans l'autre match de ce soir, les Égyptiens du Zamalek font face aux Algériens du MC Alger. Demain, les Congolais du tout-puissant Mazembe joueront les Algériens du CRB Louisdade. Dans le groupe B, les Sénégalais de Tendjetch affrontent l'Espérance de Tunis. Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud fait face à El Hilal du Soudan et les Guinéens du Oroya jouent le Petro Atlético de l'Angola. En Coupe CAF, les matchs allés du tour de cadrage se jouent dimanche, à suivre entre autres rencontres. Platinum du Zimbabwe, Jaraf du Sénégal, Bouenguidi du Gabon reçoit Salitas du Burkina Faso, les Camerounais du Coton Sport de Garoua se déplacent au Nigeria pour faire face à l'AS Sonidep, les Ghanéens d'Asanti Kotoko accueillent les Algériens de l'Entente Sétif, le Racing Club d'Abidjan offre l'hospitalité aux Égyptiens de Pyramide FC, le Stade Malien de Bamako reçoit la JS Kabylie au stade du 26 mars de Bamako, et pour le coach des Maliens, le Chan qui vient de s'achever au Cameroun a servi de tremplin pour la majeure partie de ses joueurs retenus pour cette rencontre.
On a vu que la majorité de nos joueurs constituaient l'équipe locale. On a vu un peu que cet élan-là qui a été donné déjà au niveau du Chan, c'est un bon élan. Notamment, nous, on voulait profiter de ça. Ce qu'ils nous ont légué, c'est des joueurs qui sont en confiance. C'est avec ces mêmes joueurs qu'on va prendre pour jouer dimanche pour que les mêmes faveurs, la même réussite nous habitent face au JSK. C'est un match à domicile. Il faut prendre déjà une avance. Nos gars viennent du Chan en pleine confiance. On va essayer de profiter de cette confiance, de ce bon vent-là.
Rigaud Gervais, coach du Stade Malien de Bamako. NBA, Philadelphie, leader à l'Est, a chuté dans les dernières secondes à Portland. Malgré les 35,9 rebonds du Camerounais Joel Embiid, l'égalisation de Seth Curry à 114-114 à 22 secondes du terme aura été inutile. Les Sixers ont ensuite fait faute sur Carmelo Anthony, qui a entré ses deux lancers francs, puis Robert Covington a intercepté la remise en jeu de Ben Simmons, permettant à Damien Lillard d'assurer la victoire de Portland 118-114. Le show du MVP 2015 et 2016 continue de plus belle à Golden State. Les 40 points, 8 rebonds, 5 passes décisives et 4 interceptions de Stephen Curry ont eu raison de la bonne résistance d'Orlando 111-105. Les Celtics qui restaient sur deux défaites l'ont emporté 120-106 face à Toronto de l'autre Camerounais Pascal Siakam, auteur de 23 points. Enfin, le Heat a décroché sa quatrième victoire d'affilée à Houston, battu 101-94.
Merci Yacouba. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Procès de Donald Trump au Sénat. Les responsables de la mise en accusation ont présenté hier leurs derniers arguments, affirmant que l'ancien président américain était directement responsable de la tentative d'annuler la certification de la victoire de Joe Biden. Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, fait le compte-rendu. Et c'est un récit de Lionel Gaïma.
L'accusation contre l'ancien président Donald Trump d'avoir incité à l'émeute du 6 janvier au Capitole a bouclé hier jeudi après 16 heures d'argument. Les responsables de la mise en accusation de la Chambre ont terminé leur travail. Il revient maintenant à la défense de Donald Trump de présenter sa version des faits avant que les sénateurs se prononcent sur le sort de l'ancien président. Joaquim Castro, représentant démocrate.
Montrons au monde que le 6 janvier, ce n'était pas l'Amérique.
J'accuse, dira aussi la représentante démocrate Diana Degette.
Les insurgés ont clairement indiqué aux forces de l'ordre qu'ils ne faisaient que suivre les ordres du président Trump.
They didn't shy away from their crimes.
Ils n'ont pas hésité à commettre leurs crimes parce qu'ils pensaient suivre les ordres du commandant en chef et qu'ils ne seraient donc pas punis. Ils ont eu tort.
They were wrong.
La nouvelle vidéo inédite révélée mercredi montrant les législateurs fuyant les émeutes, suivie jeudi par des dirigeants démocrates, affirmant que si Trump n'est pas empêché de se présenter aux élections, il incitera à nouveau ses partisans. Ted Lieu, représentant démocrate.
I'm not afraid. Je n'ai pas peur que Donald Trump se représente dans 4 ans. J'ai peur qu'il se présente à nouveau et qu'il perde. Il pourrait recommencer.
He can do this again.
Pendant 2 jours, les démocrates ont fait valoir que Trump a encouragé la violence à cause de son refus de reconnaître qu'il avait perdu les élections de 2020. Depuis l'assaut contre le Congrès, Washington, la capitale, est toujours sous surveillance. Il faudra qu'au moins 17 sénateurs républicains rejoignent leurs collègues démocrates pour déclarer Donald Trump coupable, ce qui est peu probable. Dans un dernier plaidoyer, Jamie Raskins, responsable de la mise en accusation de la Chambre, a demandé aux républicains d'en examiner les conséquences.
Le président Trump a déclaré que sa conduite était tout à fait appropriée. Donc s'il revient au pouvoir et que cela se reproduit, nous n'aurons personne d'autre à blâmer que nous-mêmes.
La défense de Donald Trump a commencé ses arguments ce vendredi et un vote pourrait avoir lieu de ce week-end. Donald Trump, seul président américain à avoir été mis en accusation à 2 reprises, pourrait aussi devenir le seul à avoir été acquitté 2 fois.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Libye, la révolution qui a renversé Muammar Kadhafi a plongé l'économie du pays en pleine dépression. 10 ans après la désignation d'une autorité exécutive unifiée pour mener la transition, a ravivé l'espoir d'une relance de l'économie du pays riche en hydrocarbures. Eric Manirakiza a joint à Paris le chercheur associé à l'IRIS et spécialiste de la Libye, Omar Sour Brahim.
La Libye qui, depuis maintenant une dizaine d'années, est en proie d'une guerre civile, mais aussi la mainmise de différentes milices, notamment celle à l'est du maréchal Haftar, sur les gisements pétroliers qui souvent utilisent le pétrole qui est la première source financière du pays pour le moment, avec une économie complètement paralysée, ne fait qu'aggraver la situation économique du pays globalement et réduire donc les revenus et empêcher surtout par l'absence d'un pouvoir pouvoir politique solide dans le pays empêchait tout projet de développement économique, ce qui impacte gravement sur la situation sociale, la population qui subit toute cette guerre, mais aussi cette crise économique et sociale depuis plusieurs années maintenant. Et comme on le sait, la crise sanitaire mondiale, donc liée à la COVID-19, ne fait qu'accentuer la souffrance des Libyens et accentuer cette crise économique.
La majorité des produits de première nécessité ont vu leur prix augmenter de plus de 50% en 2020. Est-ce que la mise en place d'une autorité exécutive unifiée va améliorer les conditions de vie des Libyens?
L'élection du nouvel exécutif est une bonne chose et très positive car ce nouvel exécutif est reconnu par les différentes factions, y compris celles de l'Est et de l'Ouest, le GNA, mais aussi Haftar via son porte-parole et également d'autres tribus influentes dans la scène politique libyenne. Ce qui pourrait permettre par la suite, bien sûr, d'installer une nouvelle autorité politique qui pourrait gérer les affaires à la fois politiques mais aussi économiques du pays, pouvoir une meilleure gestion, bien sûr, de la rente pétrolière, qui est la première source pour l'État libyen, ou le futur État libyen, mais également, bien sûr, développer les infrastructures qui sont complètement détériorées par une dizaine d'années de guerre civile.
Est-ce que le pétrole, qui est la première richesse du pays, constitue le vrai problème finalement économique?
Bien sûr, c'est à cause de cette source pétrolière que des États, des acteurs régionaux s'ingèrent dans la crise libyenne pour l'intérêt économique. Rappelons bien sûr les différents acteurs comme la présence des deux sociétés souvent en concurrence comme l'ENI italien et Total français, mais aussi d'autres pays aux acteurs internationaux et régionaux, les Émirats arabes unis, la Russie qui ont beaucoup soutenu le maréchal Haftar à l'Est, et la Turquie qui ont soutenu donc le gouvernement de Tripoli. Tout ça donc beaucoup lié, pas seulement, mais beaucoup lié à l'intérêt économique que représente le pétrole libyen pour beaucoup de pays, donc qui attise les appétits, bien sûr, de ces acteurs.
C'était Oumansour Brahim, chercheur associé à l'IRIS à Paris.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le 14 février marque la célébration de la Saint-Valentin, un jour spécial qui symbolise la fête de l'amour, une tradition à laquelle beaucoup de personnes se plient aujourd'hui. Les couples en profitent pour échanger des cadeaux et acheter souvent auprès de vendeurs spécialisés ou des marchands qui profitent de l'occasion pour booster leurs ventes. Zoom sur ce business diversifié autour de l'amour avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Les roses rouges sont souvent considérées comme le symbole de la passion, de l'amour et de la Saint-Valentin. Voilà pourquoi nous allons voir une fleuriste sise au quartier Sacré-Cœur de Dakar. C'est une période faste pour son business, mais elle préfère proposer des prix abordables à cause de la conjoncture due à la pandémie.
Si c'est la rose rouge, on vous parle de l'amour ardent, passionné. Si c'est la rose locale, le prix, ça peut être à 2500, voire plus, voire jusqu'à 3000, pas plus. Ça dépend de la qualité. Si c'est celle d'importer, elle est plus chère. Ça dépend, on peut le vendre entre 3000 et 10 000 francs. Ça dépend de la taille de la rose.
On quitte Sacré-Cœur, direction marché des HLM. L'ambiance est à son comble. Marchands ambulants comme magasins, tous annoncent déjà les couleurs. Si d'aucuns vendent des cartes, des fleurs artificielles, d'autres exposent un large coffret de cadeaux pour la fête de l'amour. Modou vend des pétales de fleurs en plastique, des coffrets pour hommes et pour femmes. Il a bien mis en exergue de jolies tenues en rouge, noir et blanc, mais les clients viennent au compte-gouttes. Une situation qu'il impute aux conséquences économiques du Covid-19.
Plus on s'approche de la fête, plus les clients arrivent. Je vends des accessoires et des gadgets pour l'occasion. Je vends en gros et en détail. J'avoue que la semaine dernière, c'était pire. Mais en ce moment, les choses commencent à bouger. Nous sommes conscients de la conjoncture. Voilà pourquoi les prix sont accessibles à toutes les bourses. Les femmes ont l'embarras du choix. Elles peuvent acheter également selon leurs moyens.
Un peu plus loin, Khadija tient une boutique de nuisettes, draps, pétales et autres accessoires pour la Saint-Valentin. En cette période de pandémie, elle préfère livrer à domicile pour protéger ses clients. Une belle innovation qui lui permet de mieux vendre.
J'ai des ensembles de sorties de bain, des nuisettes, des draps, des chaînes de taille, de l'encens. Je vends même du chocolat et du miel spécial Saint-Valentin. Et puisque l'on fête l'amour, j'ai misé sur le rouge et le noir, des couleurs qui le symbolisent. Franchement, le business marche en ce moment. Cette année, j'ai recruté un livreur pour mes clientes, pour éviter les déplacements et leur permettre d'avoir le temps de décorer leur maison ou de vaquer à leurs occupations. Elles passent commande et se font livrer.
Malgré la recrudescence des cas de Covid-19 et la conjoncture économique difficile, la Saint-Valentin s'annonce bien pour la majorité des vendeurs d'accessoires et de gadgets qui ont déjà envahi le marché local. Pour eux, le virus ne peut empêcher la célébration de l'amour. Seydina Abagué à Dakar pour VOA.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnon et Joselle Morissin. À la présentation, Abdourahmane Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Remettre les États-Unis sur la voie durable de l'atténuation du changement climatique est au premier rang des priorités du président Joe Biden. Dès son premier jour à la Maison-Blanche, le nouveau président a pris des mesures immédiates pour rejoindre l'accord de Paris. Puis, quelques jours plus tard, il a signé une série de décrets visant à lutter contre la crise climatique dans les pays et à l'étranger, apportant de grands bouleversements à la politique gouvernementale. Mais le changement climatique est un défi mondial qui ne peut être géré sans une coopération internationale décisive. John Kerry, envoyé spécial du président Biden pour le climat, l'a souligné lors de la réunion virtuelle le 27 janvier au Forum économique mondial de Davos. L'action nationale ne peut pas être suffisante si nous n'élaborons pas ensemble une stratégie internationale pour inciter le monde à susciter une plus grande ambition de chaque pays, de chaque secteur et garantir que l'avenir énergétique propre dont nous avons besoin a une portée et une échelle mondiale. 2020 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, selon l'agence spatiale américaine, la NASA. Afin d'empêcher les températures mondiales de monter de plus de 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels, ce que de nombreux experts jugent nécessaire pour éviter des dommages catastrophiques, nous devons réduire de moitié les émissions mondiales d'ici 2030. A déclaré le secrétaire Kerry. Cela signifie que nous devons éliminer le charbon 5 fois plus rapidement que nous ne l'avons fait. Cela signifie que nous devons augmenter la couverture arborée 5 fois plus rapidement. Cela signifie que nous devons augmenter les énergies renouvelables 6 fois plus rapidement. Cela signifie que nous devons passer aux véhicules électriques à un rythme 22 fois plus rapide. Tout cela est réalisable si nous planifions, si nous investissons et si nous exploitons les forces du marché, a déclaré le secrétaire Kerry. Nous devons nous éloigner de cet argument selon lequel les négationnistes et les procrastinateurs ont fait du défi un choix entre une qualité de vie et la prise en charge de ce défi. Le succès signifie puiser dans le meilleur de l'ingéniosité, de la créativité et de la diplomatie mondiale, de la puissance cérébrale à l'énergie alternative, en utilisant tous les outils dont nous disposons pour arriver là où nous devons aller. Un avenir des missions nulles offre des opportunités remarquables pour les entreprises, pour des emplois propres et verts, pour la croissance économique. Il est juste de dire, nous n'avons pas un seul moment à perdre, a déclaré le secrétaire Kerry. Le monde entier doit venir à cette table pour résoudre le problème.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.